Le Seigneur est avec vous.
Avec votre esprit.
L'évangile de Jésus-Christ selon Saint-Marc.
Gloire à toi, Seigneur.
En ce temps-là, les pharisiens abordèrent Jésus et, pour le mettre à l'épreuve, ils lui demandaient: est-il permis à un mari de renvoyer sa femme? Jésus leur répondit: que vous a prescrit Moïse? Ils lui dirent: Moïse a permis de renvoyer sa femme à condition d'établir un acte de répudiation. Jésus lui dit: c'est à raison de la dureté de vos cœurs qu'il a formulé pour vous cette règle. Mais, au commencement de la création, Dieu les fit hommes et femmes. À cause de cela, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et tous deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais une seule chair. Donc, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. De retour à la maison, les disciples interrogeaient de nouveau sur cette question. Ils le déclarèrent: celui qui renvoie sa femme en épouse une autre devient adultère envers elle. Si une femme qui a renvoyé son mari en épouse un autre, elle devient adultère. Les gens présentaient à Jésus des enfants pour qu'il pose la main sur eux. Mais les disciples étaient capables vivement. Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit: laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu est à ceux qui le ressemblent. Amen, je vous le dis. Celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu à la manière d'un enfant n'y entrera pas. Les embrassait et les bénissait en leur imposant les mains. Acclamons la parole de Dieu.
Seigneur Jésus. Quand arrive le moment de préparer la célébration du mariage avec le couple qui a demandé d'être marié à l'Église, arrive le moment où nous parlons des textes de lecture. Et généralement, je propose au couple d'en choisir pour le jour de leur mariage. Alors, ce que j'ai constaté, d'ailleurs c'est le cas pour plusieurs prêtres, surtout que l'Église aujourd'hui insiste pour que l'un des textes parle directement du mariage. La première lecture que nous avons entendue aujourd'hui, et même l'Évangile, ont tendance à revenir souvent dans le choix des couples, et avec raison. Je regarde la première lecture, sur laquelle d'ailleurs le Seigneur aussi va insister, je la trouve très parlante. Et moi, ça me touche beaucoup, dans le sens que ce texte-là date du 10e siècle avant Jésus-Christ. Et les allégations qui s'y trouvent, pour moi, viennent de Dieu. Parce que la mentalité, à ce moment-là, ne pouvait pas produire ces idées-là. Ces idées ne pouvaient pas jaillir du cœur des gens qui vivaient en ce moment-là. Sans aller trop dans le détail, la clé d'interprétation pour le premier texte qui est l'histoire de la création, le deuxième récit de la création, il faut simplement s'arrêter sur l'expression que va utiliser l'homme en se réveillant, quand il voit au-devant de lui cet être-là qui s'appelle Isha, qui s'appelle femme. Alors il va dire: « Finalement, voici l'os de mes os. Voici la chair de ma chair. » Ce qui veut dire « Voici un autre moi-même. Voici moi au féminin. Voici un autre être qui a été bâti, construit comme moi. » Voici un autre être qui partage avec moi la même origine fondamentale. Avant cela, vous vous rappelez dans le texte, il est dit que l'homme était entouré d'animaux, de la création, de la végétation. Il ne pouvait pas communiquer avec la végétation, il ne pouvait pas communiquer avec les animaux. Mais cette fois-là, quand il est en présence d'une femme, un autre être, à ce moment-là, il peut se dire, il peut se traduire, il peut communiquer, il peut ouvrir son cœur, il peut voir son visage dans le visage de l'autre. Donc pour dire qu'en fait, si Dieu nous a créés hommes et femmes, c'est pour que nous communiquions. C'est pour que nous bâtissions une amitié. C'est pour que nous nous reconnaissions les uns dans les autres. Si Dieu a créé l'homme et la femme, c'est pour que nous partagions la même origine. Alors, le plan originel de Dieu, ce que Dieu avait en tête quand il nous a créé homme et femme, c'est parce qu'il voulait qu'on soit des êtres complémentaires, qu'on vive dans la complémentarité, qu'on se complète, qu'on s'entraide mutuellement. L'idéal de Dieu n'a jamais été la domination de l'un sur l'autre. Ce n'est pas dans l'Écriture. L'idéal de Dieu, c'est que nous arrivions à devenir une seule chair, un seul être, en fait. On tend vers là. C'est reconnaître que l'homme et la femme, fondamentalement, sont égaux. Maintenant, qu'est-ce qu'on retient ? Dans votre vie de marié, il faut savoir reconnaître que votre femme, c'est vous-même au féminin. Que votre mari, c'est vous-même au masculin. Que votre visage est reproduit par le visage de votre mari. Que votre visage comme mari est reproduit par celui de la femme. Que vous êtes appelé à vous reconnaître dans l'autre. Le Seigneur nous a proposé le mariage pour que nous apprenions à sortir de nous-mêmes, qu'on ne soit pas enfermé dans le repli de soi-même. Le Seigneur nous propose le mariage pour que nous apprenions à sortir de l'égoïsme et à être don de soi, à être à la disposition de l'autre. Comme vous le savez mieux que moi, c'est continuellement dans la vie de mariée qu'il faut savoir sortir, s'oublier soi-même et faire toujours attention à l'autre. Le Seigneur nous apprend par cet appel au mariage à finalement être toujours là au service de l'autre, à la disposition de l'autre, être toujours tourné vers l'autre. Maintenant, quand on réfléchit, tu sais que le Seigneur nous a proposé, eh bien, on ne peut conclure qu'à ceci, que Dieu qui est amour nous a conçus dans l'amour. Dieu qui est amour nous propose de vivre dans l'amour. Dieu qui est amour ne veut nous voir vivre que dans ce contexte-là. Une autre chose qui me frappe très fort, au fur et à mesure que les années passent, que je comprends aussi certaines choses, c'est curieux de voir que quand dans une famille il n'y a pas d'amour, les enfants peinent à grandir convenablement. Quand les enfants ne sont pas entourés vraiment de l'amour sincère, de l'amour oblatif, de l'amour qui se donne, de l'amour des parents, alors il y a des failles. Et même nous autres aussi, dans la société, quand nous vivons dans un contexte où vraiment manque d'amour, nous ne savons pas progresser, alors on souffre. Alors on se pose des questions. Dieu nous a créés pour l'amour. Et Dieu nous a conçus dans l'amour. Et Dieu nous a fait des êtres pour aimer. Voilà dans quel contexte, moi je pense, qu'il faudrait inscrire le mariage. Mais maintenant, quand il y a échec, qu'est-ce qui arrive? Parce que il faut reconnaître que cet idéal que Dieu nous propose n'est pas toujours suivi. D'ailleurs, dans un des textes du Priant en Église, je lisais l'article de Yvonne Richard qui dit qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de divorces. Que, en fait, d'après elle, c'est un mariage sur deux qui connaît l'échec. Maintenant, ce qu'on peut déplorer, justement, c'est le nombre qui augmente, le nombre de divorces. Ça, on peut déplorer, c'est vrai. Aussi, sans nier l'enseignement de l'Église, que le mariage est indissoluble, il y a l'indissolubilité du mariage, ça veut dire que le mariage c'est pour toujours. Sans nier l'enseignement de l'Église qui dit qu'il y a l'unité du mariage, c'est-à-dire que c'est pour un homme et une femme. Il faut reconnaître que dans la société, il y a des personnes qui ont connu le divorce injustement. Il y a des personnes qui ont été blessées terriblement dans leur vie de mariée. Il y a des personnes qui ont été humiliées, diminuées dans leur vie de mariée. Il y a des personnes qui ont recommencé la vie. Mais maintenant, dit le pape dans l'exhortation apostolique qui s'appelle « Joie de l'amour », est-ce qu'il faut renvoyer ces personnes-là de l'Église ? Non. Les personnes divorcées qui ont repris leur vie, qui se sont remariées, ont de la place dans notre Église. Le Seigneur Jésus n'a jamais mis à la porte le pécheur. Cherchez dans l'Évangile, trouvez-moi une place où le Seigneur renvoie un pécheur parce qu'il est pécheur. Le Seigneur a toujours été généreux. Il a toujours vécu avec un cœur ouvert. Il a pardonné, être généreux. Il a toujours donné la chance, une deuxième chance, continuellement. Et c'est dans ce sens-là que le pape nous invite, nous les catholiques, à nous ouvrir davantage aux personnes qui ont été blessées dans leur vie de mariage, aux personnes qui ont eu difficile et qui ont essayé de reconstruire leur vie. Il ne faudrait pas, quand ils arrivent aux portes de l'Église, ils sentent un coup de massue dans la tête encore. Le pape propose qu'on les accompagne, qu'on les écoute, qu'on les intègre. Alors pour dire, en fait, c'est ça la charité. C'est ça la charité du Christ, c'est ça la charité de l'Église. Alors nous sommes là pour prier aussi pour ces personnes qui ont connu et qui connaissent une vie difficile. C'est curieux, hier j'ai fait pratiquement la même prédication. À la sortie, il y a un homme qui m'a abordé. Il me disait qu'il me remerciait pour l'homélie. Ensuite, il me disait que lui-là, on lui avait volé son statut d'homme marié. Je ne sais pas ce qu'il voulait dire, mais c'est comme ça qu'il s'est exprimé. Et il le disait vraiment avec tout son cœur. Voyez-vous. Donc il y a des personnes qui ont souffert dans la vie de marié. Et on ne connaît pas l'histoire, c'est compliqué. Parfois, ce sont des problèmes, des situations complexes. Mais ce que je veux tout simplement dire, c'est qu'il faudrait que nous ayons la générosité d'accompagner les personnes qui ont connu des difficultés, qu'on les accompagne comme le Christ le ferait. Voyez-vous. Alors, on ne va pas oublier que c'est quand même la fin de semaine de l'action de grâce. Alors, la première chose, c'est louer le Seigneur pour notre vie de mariée. Je loue le Seigneur pour mon mari, je loue le Seigneur pour ma femme. Chaque année, comme vous le savez, à la cathédrale, on célèbre les différents anniversaires de mariage. Et cela, il faudrait peut-être reprendre dans nos cœurs et louer le Seigneur pour toutes ces années qu'il nous a accompagnés comme couple marié, comme des chrétiens qui représentent l'amour du Christ et de l'Église. Et louer le Seigneur pour cela, louer le Seigneur pour nos enfants, pour tout ce que nous avons. On ne va pas oublier les personnes qui ont été victimes de la tornade dans notre région. J'ai entendu pas mal de témoignages. Il y a des personnes, parce qu'ils ont perdu leur nourriture dans le congélateur, ils ont de la difficulté pour acheter. Et il y a eu beaucoup d'aide dans notre région. Des gens qui sont partis vers elles, vers toutes ces personnes-là, pour leur donner seulement de la nourriture. Il faut rendre grâce au Seigneur pour tant de bienfaits, pour tant de charité qu'on voit dans notre région ici. Des personnes qui répondent aux besoins des autres. Et quand nous célébrons notre action de grâce, nous allons louer le Seigneur, lui dire merci, mais avec un cœur aussi tourné vers les personnes aujourd'hui qui fêtent l'action de grâce avec des difficultés de maison, avec une maison qui a besoin de rénovation sérieuse. Alors tout cela, nous portons dans notre cœur. À la sortie de la messe, comme à chaque année, nous allons recevoir une pomme. Et moi je me dis, en prenant la pomme, en la mangeant, il faut te rappeler la générosité de la terre. Cette terre, depuis le début de la création, ne cesse de donner des fruits à l'humanité. C'est la générosité de Dieu qui est reflétée par cette production constante de la terre. Voyez-vous, le Seigneur a pris le mariage, il l'a élevé au niveau du sacrement. Que ça veut dire le sacrement ? Le sacrement, c'est un signe qui renvoie à autre chose. Alors, le mariage chrétien, c'est un sacrement dans le sens qui renvoie à une autre chose. Le mariage chrétien renvoie à l'amour entre Dieu et le peuple, entre Dieu et son peuple. c'est que votre façon de vous marier, votre façon de vivre le mariage, votre façon d'exprimer l'amour doit nous renvoyer à l'amour qui existe entre Dieu et son peuple, à l'amour qui existe entre Dieu et l'âme. À la relation qu'il y a entre Dieu et l'âme, eh bien, c'est la relation qui est reflétée par votre vie de marié. Alors moi, je dis toujours aux couples, eh bien, quand vous recevez des gens chez vous à la maison, il faudrait que les visiteurs, quand ils repartent, ils disent « Ah, nous avions tellement senti le parfum de l'amour de Dieu dans cette maison-là, en voyant comment nos deux amis s'aiment comme femme et mari. » C'est ça, c'est là être l'expression de l'image de Dieu, être sacrement, voyez-vous. Alors voyez-vous, le Christ lui-même, c'est celui qui s'est endormi sur la croix. Il s'est endormi sur la croix et de son côté est née l'Église que nous sommes. Nous regardons le Christ comme celui qui nous aime plus que tout. Et nous l'accueillons aujourd'hui comme celui qui est au-devant de nous et qui veut nous donner une vie transformée. Alors dans la prière d'aujourd'hui, nous allons rendre grâce au Seigneur pour tous les couples de notre paroisse, pour tant de fidélité qui s'exprime dans tous ces couples de notre paroisse. Nous portons aussi dans nos cœurs les couples blessés, ceux qui veulent reprendre la vie et qui ont besoin de Dieu, qui ont besoin de notre amour. Nous allons rendre grâce au Seigneur pour la terre, pour tous ceux qui ne cessent de venir de la terre, et sans oublier les personnes qui ont été victimes de la tornade dans notre région, qui ont besoin aussi d'être appuyées par nos prières. Demandons au Seigneur finalement qu'il nous fasse être des âmes toutes liées à lui, que nous nous marions, comme disaient les anciens pères de l'Église, que notre âme se marie vraiment au Seigneur et que par ce mariage entre notre âme et le Seigneur, eh bien, nous nous transformions davantage dans cette vie. Amen.